bienvenue sur FrenchPodcast.com. Voici, comme annoncé, la suite et fin de mon entretien avec Jacques Sensei qui, au travers de son parcours personnel, détaille pour vous les différentes techniques utilisées dans le karaté ainsi que ses vertus et bienfaits en tant que sport.
Parfois même avec les karatékas japonais, eux ne parlant pas français et vous pas japonais, vous arriviez tout de même à vous comprendre et à vous entendre.
Absolument, quand on pratique des entraînements, on connaît quand même un peu le vocabulaire technique du karaté. Oui. Même maintenant, quand on va à l'étranger, avec des Suédois par exemple, on ne connaît pas un mot de Suédois, et bien quand le professeur dit yoi ou nous dit yame ou kamae, on se comprend. Et...
Tu parlais tout à l'heure du fait que vous n'étiez plus de première jeunesse, donc est-ce que tu peux nous dire ton âge? Et après cela, nous dire combien d'heures tu t'entraînes par semaine.
Je viens d'avoir 63 ans. J'ai commencé le karaté en 1962. En 1968, c'était un petit peu la pagaille en France. Donc je m'entraînais quasiment toute la journée. Jean-Pierre Lavorato habitait à l'époque boulevard Saint-Michel. J'habitais à Lézia, donc j'allais à pied, pas de métro bien sûr. J'allais le chercher entre les grenades lacrymogènes. Et ensuite, on partait en voiture à Vincennes, dans son club. Et on s'entraînait jusqu'au soir. Et le soir, on rentrait. Et le lendemain matin, c'était la même chose. Ça a duré pendant tout le mois de mai 68. Je m'entraînais tous les jours. Samedi et dimanche compris. Fort ou pas fort, le problème n'est pas là. Quand on est en forme, on peut s'entraîner très fort. D'autres fois, on s'entraîne moins fort. Et il y avait les blessures aussi, parce que quand on est jeune, on ne fait pas bien attention, on n'écoute pas son corps. On a essuyé les plâtres, première vague du karaté français, et on a fait beaucoup de bêtises, parce qu'on s'est entraîné avec des durs qui avaient fait la guerre de 39-45, des anciens militaires, et puis c'était marche ou crève un petit peu, et on a réussi à s'abîmer un petit peu. Mais bon, le temps passe et puis les vieilles douleurs s'estompent. Mais il faut être à l'écoute de son corps pour pouvoir pratiquer comme je le fais actuellement, 3-4 fois par semaine, 1h30, 2h. Et je pense que c'est pas assez pour mon cas personnel. J'aimerais pouvoir m'entraîner plus.
Au bout de 45 ans de pratique, c'est beau.
Au bout de 45 ans, l'entraînement est un peu différent. C'est plus tellement physique, il y a une partie psychique qui est là. Et il faut mettre le psychisme en rapport avec le physique. C'est beaucoup plus difficile de former le psychisme, le mental, que de former le corps, parce que le mental se rebelle.
Donc après avoir pratiqué pendant 45 ans, tu enseignes, tu es retraité, et tu continues d'enseigner, ça te plaît?
C'est très bien, disons que c'est un alibi pour pouvoir continuer, parce que pour commencer, au niveau que j'ai atteint maintenant, pour trouver un professeur qui puisse m'apporter quelque chose, on les compte en France sur les doigts de la main. Donc ça me gênerait d'avoir à m'entraîner avec des gens que j'ai formés. Oui. Je dis pas physiquement parce qu'on s'entraîne toujours, mais beaucoup de gens n'ont plus rien à m'apprendre maintenant. Donc c'est un travail personnel, un travail sur soi. Donc éventuellement, je passais jusqu'à l'année dernière mes vacances en Corse. Donc pendant un mois et demi en Corse, je partais dans le maquis m'entraîner tous les jours, 2 heures tout seul. Au contact des animaux. D'ailleurs, j'ai remarqué une chose assez curieuse, les animaux sont intéressés par le karaté.
C'est vrai?
Absolument, oui. Je m'entraînais à côté d'un château d'eau en plein maquis. J'y allais le matin. L'après-midi, j'y allais vers 13h quand le soleil tape bien. Donc je m'arrosais d'eau et ensuite entraînement bien sûr avec des chaussures, mais toujours en short, torse nu. Et je me suis aperçu que les fourmis, ça pourrait passer pour une blague, mais les fourmis, les lézards, les oiseaux aussi, en Corse, il y a des éperviers, tournent autour et viennent regarder. J'ai même vu un chien arriver. Bon, je suis un peu myope. Il s'est assis et il me regardait. Je me suis arrêté, je l'ai appelé. Ben, en fait, ce n'était pas un chien, c'était un renard qui était là, qui me regardait.
Incroyable.
Voilà. Et les animaux sont très sensitifs à ces choses-là, puisque, en fait, un karatéka, c'est pas l'ennemi de la nature. On essaie de se fondre, on fait partie de la nature de toute façon.
Est-ce que tes chats, à toi, te regardent quand tu t'entraînes?
Ben oui, ils regardent, les animaux regardent. Le karaté, ça pourrait paraître violent, c'est assez difficile à expliquer, c'est harmonieux, il n'y a pas de disharmonie dans les mouvements. Je l'ai vu avec des animaux, quand on fait des mouvements saccadés et violents, les animaux n'aiment pas trop, ils s'en vont. Mais si jamais vous faites des mouvements harmonieux, de kata, ça les intéresse.
J'ai remarqué même pendant notre stage à 7, que les gens venaient assister aux répétitions des katas, parce que je pense qu'effectivement ça ressemble à des chorégraphies et que c'est plutôt joli à regarder.
Ben, les katas, ce sont des chorégraphies martiales. Il y a différentes façons de les travailler. On peut les travailler très saccadées, on peut les travailler très souples, on peut avoir des positions très accentuées, très basses. C'est tout un travail personnel. On le fait en groupe, bien entendu, mais quand on est tout seul, je vais vous donner un nom de kata qui est très simple en apparence, le Taikyoku Shodan. Il y a différentes façons de le travailler. On peut le travailler très fort, on peut le travailler tout doucement, très lentement, on peut le travailler en continu ou saccadé. Il y a différentes façons de travailler tous ces mouvements. avec des respirations appropriées, bien sûr. Disons que le karaté, c'est comme le yoga, avec les différentes sortes de respirations, de rétention, de pranayama.
Quelles sont, selon toi, les différences majeures entre ces deux courants d'un même karaté, que sont le Shotokan et le Shotokai?
Shotokan, Shotokai, je dirais même que c'est la même chose. Le maître Funakoshi, donc, qui a importé le karaté d'Okinawa, Shoto, c'était son nom de plume. Et la maison où il entraînait, c'était le Shotokan. Mais ses anciens élèves, maître Kaze notamment, faisaient partie du groupe, je n'ose pas dire dissident, mais d'anciens élèves, qui s'appelaient Shotokai. Donc c'est la même chose. Tout en sachant que maintenant, il y a un courant Shotokai, mais qui semble un petit peu déconnecté des réalités. Il faut rester quand même les pieds sur terre, la tête dans les nuages bien sûr, mais les pieds sur terre. Et le gros problème du Shotokai, je pense, qui est magnifique, qui est très beau, mais il en manque la force. En faisant du Shotokan, on arrive à un moment maintenant où je comprends tout à fait la démarche du Shotokai, qui est très respectable. Mais je pense qu'il y a peut-être un manque de compréhension, mais je ne voudrais pas en dire plus parce que ce sont des amis.
Et un manque d'ancrage au sol, selon toi, qui donne
pense,
cette force.
Absolument, c'est dynamique, c'est souple, il n'y a pas d'appel, c'est fluide, mais il me semble qu'il manque un petit peu quelque chose. Justement, quand je parlais de rythme dans les katas, notamment Taikyoku, je travaille aussi la manière Shotokai. Et disons que c'est un aboutissement. Donc il faut commencer par quelque chose de saccadé, de très fort. Un enfant qui commence à marcher, c'est pas tellement agréable à voir, c'est pas beau, c'est heurté. Et après, on peut très bien marcher tout doucement, comme il faut.
C'est pour ça que le Shotokan se travaille plus bas. Il m'est arrivé de dire que je faisais du karaté Shotokan et on m'a dit « Ah oui, celui où tu as les jambes comme ça très très pliées, où tu travailles
oui.
très bas. »
Oui, absolument. On travaille très bas. D'ailleurs, les premiers Shotokan, maître Funakoshi, travaillait très haut.
Je t'interromps juste pour expliquer. Travailler très haut, c'est avec les jambes non fléchies.
Quasiment non fléchies. C'était vraiment du karaté d'Okinawa, mais qui semblait, quand on le regarde maintenant, ça semble très bizarre. En fait, on peut supposer, d'après les recherches qui ont été faites, que c'était pour masquer le vrai karaté. Donc, j'allais dire que c'est un ésotérisme du karaté. Et pour le tout venant, c'était un karaté très haut que tout le monde pouvait pratiquer, mais que le karaté supérieur était obligé de se travailler très bas. La preuve en est, c'est quand on va en Chine et qu'on regarde les techniques du Shaolin, les gens travaillent très très bas aussi. Et le vrai karaté pourrait s'apparenter aussi au style Shaolin, de même qu'à la boxe thaï, c'est la même chose. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut commencer l'entraînement maintenant, la pratique, le combat, c'est tout à fait autre chose. Mais pour sentir des choses, il faut travailler très bas pour acquérir de la vitesse, de la force dans les jambes.
Et de l'équilibre.
Équilibre surtout, très important l'équilibre. Pour faire tomber quelqu'un, pour lui prendre le bras, il ne s'agit pas de bouger. Il faut être capable de rester sur place, de tirer, mais avec le ventre, avec le hara. Le hara, c'est le ventre. Mais pas spécialement le ventre physique, mais aussi l'énergie du ventre. En karaté aussi, comme en yoga, on peut parler de chakra, c'est la même chose. Donc, ceux qui veulent se documenter, vous lisez des bons livres de yoga. On vous parlera des chakras, notamment La puissance du serpent d'Arthur Avalon. Et là, vous aurez beaucoup de choses. On ne peut pas séparer l'art martial des techniques yogiques. C'est la même chose, sauf que c'est une autre voie. C'est une voie martiale. Je pense, mais ça c'est une pensée personnelle, que le yoga était réservé aux brahmanes et que le karaté c'était un art réservé pour les guerriers, les kshatriyas. Ce qui ne veut pas dire que les brahmanes ne pouvaient pas pratiquer le karaté, bien entendu.
Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu as interrompu le karaté ?
Il m'est arrivé de m'interrompre un petit peu. Pendant un an, pour mon travail, j'ai dû ralentir mon entraînement. Mais ce n'était pas satisfaisant. Et aussi, j'ai eu un problème, j'ai eu un accident. Mais pas de karaté, bien entendu. J'ai été obligé de me faire opérer d'un genou. Et je suis resté 3 mois sans m'entraîner. Et ça a été vraiment, je crois, les plus dures épreuves de ma vie.
Physiquement et mentalement, j'imagine.
Physiquement, oui, parce que j'ai beaucoup souffert, mais je crois que c'est surtout intellectuellement. Psychiquement, intellectuellement, c'est très, très dommageable de ne pas pouvoir s'entraîner, de se sentir un peu diminué. Mais on travaille autrement, on essaie de faire des visualisations de kata en étant assis.
Le karaté est-il recommandé pour tous ? Les femmes, les enfants, les jeunes, les moins jeunes ?
Le karaté, tout le monde peut pratiquer, tout dépend des motivations. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Hein. Moi j'ai pratiqué vraiment, j'ai cherché à faire très fort, aller au maximum. Mais on peut très bien le faire, c'est très ludique le karaté. Les enfants adorent. Et les femmes aussi. En plus de l'esthétisme, disons que ça peut apporter beaucoup pour le corps. Hein. Affiner le corps, donner de la force. Et ça peut aussi être utile pour apprendre à se défendre. Mais pour apprendre à se défendre, il ne faut pas oublier que ça ne sert à rien d'avoir un corps bien formé si la tête est faible. Donc il faut travailler aussi le psychisme. Tout le monde peut pratiquer le karaté, quel que soit l'âge. Et je dirais même qu'il me semble que pour des gens qui sont dyslexiques, le karaté est très recommandé. Je ne dirais pas que c'est du karaté médical, mais ça demande des entraînements un peu spéciaux. Rééduquer les gens, c'est formidable le karaté pour ça.
Oui, je pense.
Le karaté, c'est un art total, le corps entier travaille.
Jacques, je te remercie de toutes ces informations sur le karaté et je pense que ça va donner très envie à beaucoup de ceux qui nous écoutent. Merci.
Merci beaucoup.